chères auditrices et chers auditeurs de CFM Rodez à l'écoute de l'émission Mamie fait de la radio. Aujourd'hui, deuxième épisode des loups, les loups, encore les loups, toujours les loups. Rivalité séculaire entre l'homme et le loup, peur et fantasme ont donné de belles pages d'histoire, de contes, de fables, de légendes, de romans, et l'Aveyron ne déroge pas à la tradition en donnant du loup à lire. Ainsi, Jean-Michel Cosson, historien, et Jean-Philippe Savignoni, conteur du patrimoine, bien connu au musée Fenaille notamment, relatent dans leur livre « L'Aveyron secret » aux éditions de Boré, l'histoire du loup, de la fouasse et du cabrétaire. Vous avez déjà écouté de la cabrette, vous avez déjà goûté de la fouasse, et vous commencez à connaître le loup. Vous savez aussi qu'un cabrétaire anime bals, fêtes, veillées, mariages, mais au début du XXe siècle, il se déplaçait à pied et bien souvent il rentrait chez lui à la nuit tombée. Il avait été payé en nature, par exemple avec une fouasse, dont il voulait faire profiter sa famille. Le cabrétaire de cette histoire est donc sur le chemin de retour, de nuit. Il se sent suivi, il ne s'inquiète pas immédiatement, mais quelques instants plus tard, son sang se glaça. Il était suivi par des loups. Alors voici ce qui arriva. Combien étaient-ils ? 2, 3, 4 ? Je ne savais pas et cela ajouta mon angoisse. Je n'étais pas de naturel peureux. À 35 ans, doté d'une forte constitution, j'en avais fait plier plus d'un. Tandis que j'évaluais mes forces et mes chances, une masse sombre traversa le sentier. Près de moi, à l'arrière, d'autres suivaient. L'étau se resserrait. Leur stratégie de mort était en place. J'étais un rescapé de 4 ans de guerre, je n'allais pas me faire dévorer, là, par ces 3 ou 4 bêtes affamées. Alors l'idée me vint de leur distribuer par petits bouts ma fouasse. J'espérais les maintenir à distance. Je compris à la vitesse où mes portions étaient englouties que ma pâtisserie n'allait pas durer longtemps. Prudemment, j'allongeai le pas afin de sortir au plus vite de cette forêt. Mais ce qui devait arriver arriva. Plus de munitions de bouche. Enhardis par mes distributions de nourriture, ils se rapprochaient de plus en plus. J'entendais leur souffle. Alors, pour la première fois de ma vie, une peur viscérale me noua le creux de l'estomac. Puis, brusquement, une idée que je qualifierais de génie ou inspirée par je ne sais qui, m'indiqua ma réaction. Je pris prestement ma cabrette, installai tant bien que mal l'équipement et me mis à en jouer le plus fort possible. Et, miracle ! Le bruit intempestif de mon instrument qui résonnait dans la forêt à des kilomètres les fit fuir. Mais toujours pas très rassuré, je continuai mes mélodies jusqu'à ce que je quitte enfin la forêt. Bientôt, je distinguai le fameux clocher en vrille de Saint-Côme. J'étais arrivé. Cependant, une certaine mélancolie s'installa dans mon esprit. Pourquoi n'ai-je pas pensé dès le début à jouer plutôt que de leur distribuer la fouasse, privant ainsi ma femme et mes enfants de cette délicieuse friandise? Ah, au récit de cette aventure, j'espère qu'ils me pardonneront. Le loup n'aime pas la cabrette, ou tout simplement, il n'est peut-être pas musicien.
Págalo, embrazalos caballeros.
êtes bien sur CFM Rodez et vous venez d'entendre, dans le cadre de l'émission Mamie fait de la radio, un enregistrement de 1920, Para Lolop de Buscatel. Il y a bien plus longtemps, et à proximité de l'Aveyron, on raconte une histoire. Il était une fois la bête du Gévaudan. Il n'en est aucune de plus fameuse, ni de plus abominable. Elle a fasciné 10 générations et cela continue. Des centaines d'articles, des livres, des films lui sont consacrés. Parmi les plus récents, le Pacte des loups réalisé par Christophe Gans. Il faut se représenter le Gévaudan, non dans la verdure accueillante de l'été, mais en hiver, quand le blizzard lève la neige en mortel grésil. C'est alors qu'on ressent, par chaque fibre de son corps, la tragédie dans laquelle, au XVIIIe siècle, se trouva plongée cette misérable province du Massif central. Qui est la bête ? Un loup d'une taille et d'une force affreuse, disent les uns. Non, corrigent les autres, toute une meute. À moins, sous-entendent beaucoup, que ce fauve-là n'est d'animal qu'une peau rapportée, avec en dessous un pervers humain, trop humain, un criminel sadique, un tueur en série. Au Gévaudan, tout commence le 30 juin 1764 et dure 3 ans jusqu'au 19 juin 1767. Le premier cercueil qu'on porte en terre est celui de Jeanne, 14 ans, déchiquetée à la lisière de la forêt. On attribue sa mort à une bête gigantesque. Peu après, une autre jeune fille expire sous les griffes du monstre, puis un garçon, puis un autre dont les parents ramassent les membres et séparent. Une fille encore, dévorée dans son jardin. La liste s'allonge, la terreur s'installe, les crimes paraissent de plus en plus hideux. C'est la bête. Le mot est sur toutes les lèvres, la créature peuple les cauchemars. On la devine, on croit la voir, on la voit, on la décrit, plus grande qu'un veau ou qu'un cheval, les témoignages varient, couverte de poils fauves ou noirs. La tête massive, le souffle ardent, les mâchoires formidables, c'est avec ses crocs luisants, longs et aigus comme des poignards. On requiert la troupe, le gouverneur militaire du Languedoc demande au capitaine Duhamel de régler le problème. Celui-ci abat quantité de loups, mais les meurtres ne cessent pas. À Versailles, Louis XV s'émeut du trouble qui agite la province. Des louvetiers de profession sont appelés à la rescousse. Les Duneval, puis Antoine de Beauterne, se chargent des basses besognes. Ils tuent plusieurs fauves à la fin de 1765 et présentent les dépouilles à la cour, sans oublier la récompense. Les attaques cessent, on suppose le problème réglé. Cependant, en décembre 1765, 2 femmes et une fillette sont à nouveau tuées et un garçon blessé. La tragédie recommence. On compte 6 morts en 1766 et 18 en 1767. Le 19 juin de cette année-là, Jean Chastel fait fondre les médailles de la Vierge qu'il porte sur son chapeau. Il confectionne 3 balles que bénit le curé du village et abat sur les pentes du Mont Mouchet un loup énorme dont on exposera partout la dépouille empaillée. Le drame se conclut. Au total, morts et blessés confondus, on dénombre 157 victimes, dont beaucoup frappés de blessures horribles, égorgés, scalpés, décapités, viscérés. Les récits des témoins impressionnent. La bête échappe au coup de feu de façon surnaturelle. Elle est indestructible. Elle appartient à la sphère de l'illusion et du fantasme. 2 siècles et demi plus tard, l'énigme demeure. Qui a tué ? Un loup enragé ? Peu probable. Un hybride de loup et d'ours, ou de singe ou d'hyène ? Chimère. On peut voir dans ce sanglant épisode la main de Dieu ou la perfidie du diable. La bête du Gévaudan est-elle humaine ? Est-ce un tueur en série ? Un sadique exécuteur d'enfants ? Nul ne connaîtra jamais son visage et c'est peut-être bien ainsi. C'est ce qu'écrit Yves Pacalet dans « Éloge des mangeurs d'hommes ».
Elle attend manger de monde, qu'elle est devenue toute ronde. Elle attend manger de monde, qu'elle est devenue toute ronde.
Thank you.
Écoutez, écoutez, CFM Rodez en compagnie des loups. Depuis le roman de Renard, les loups ont la réputation d'être bêtes et les goupilles malins. Un jour, un loup affamé dit au renard « J'ai faim !»« Viens !» dit le renard. Les complices se retrouvent devant un poulailler. Un trou dans le grillage leur permet d'entrer. Le renard dévore une poule. Le loup se goinfre. Il engloutit volaille après volaille au point que son ventre devient énorme. Le fermier surgit. Le goupil s'enfuit par la brèche. Celle-ci est devenue trop petite pour le loup pléthorique qu'un méchant coup de gourdin étend raide. Moralité, ne chassez qu'une poule à la fois. Un loup rencontre un lion et le salue. « Je vous admire, dit-il, vous êtes puissant. Vous ne craignez personne. » « Personne, en effet. Moi, repartit le loup, j'ai peur de tout. Je me cache le jour, je ne sors du bois qu'à la nuit. Je m'attaque à des créatures sans défense comme les moutons. J'ai peur des hommes. » « Qui sont les hommes ?» demande le lion. « Tu verras. » Les deux prédateurs rencontrent un enfant. « Celui-là, je ne le crains pas encore, » explique le loup. « Ce n'est pas tout à fait un homme. » Il croise un vieillard. « Oh, celui-là, je ne le crains plus, » dit le loup. « Il a cessé d'être un homme. » Il tombe sur un chasseur, le fusil à l'épaule. « Voilà l'homme !» aiguille le loup, terrorisé, qui plonge dans un fourré. Le lion observe le chasseur. « Oh, il n'a pas l'air si terrible avec son petit bâton !» Et il reçoit une balle en plein cœur. Mais le loup est épris de liberté et quand il s'adresse au chien chez la fontaine, il dit qu'il ne pourrait supporter ce collier dont vous êtes attaché. Chien et loup, chien loup, c'est l'histoire de Cro-Blanc, roman de Jack London, grand écrivain de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Attiré par le grand nord américain, la ruée vers l'or. Vous avez certainement lu ou vu l'appel de la forêt. Donc, Cro-Blanc est un louveteau, chien-loup par ses aïeux. Dans le passage suivant, la louve, sa mère, lui porte secours. Elle courait en grondant car elle avait perçu la plainte de son petit et se précipitait pour le secourir. Elle bondit au milieu du groupe et répondant à son élan maternel, elle était à la fois menaçante et inquiète. Son irritation protectrice était un réconfort pour le louveteau qui sauta vers elle avec un petit cri joyeux, tandis que les animaux hommes se reculaient en hâte de plusieurs pas. La louve s'arrêta près de son petit qui se pressait contre elle et fit face aux Indiens. Un sourd grondement sortit de son gosier. La menace contractait sa face et son museau qui se plissait se relevait presque jusqu'à ses yeux en une prodigieuse grimace de colère. Il y eut alors un cri que lança l'un des hommes. « Quiche ! » fit-il avec une exclamation de surprise. À cette voix, le louveteau sentit vaciller sa mère. « Quiche ! » cria l'homme de nouveau, durement cette fois et d'un ton de commandement. Et le louveteau vit alors sa mère, la louve orgueilleuse, se plier jusqu'à ce que son ventre touchât le sol, en geignant et en remuant la queue, avec tous les signes coutumiers de soumission et de paix. Il n'y comprenait rien. La terreur de l'homme le reprenait. Son instinct ne l'avait pas trompé et sa mère le subissait comme lui. Elle aussi rendait hommage à l'animal homme. L'Indien qui avait parlé vint vers elle. Il posa sa main sur sa tête et elle s'aplatit davantage. Elle ne grondait pas, elle ne cherchait pas non plus à mordre. Les autres Indiens s'étaient rapprochés et rangés autour de la louve. Ils la caressaient sans aviver chez elle la moindre velléité de résistance ou de révolte. « Ce qui se passe n'a rien d'extraordinaire, » dit un des Indiens. « Le père de Quiche était un loup. Il est vrai que sa mère était une chienne. Mais mon frère l'avait attaché dans les bois, trois nuits durant, au moment de la saison des amours. Alors un loup l'a couverte. Un an s'est écoulé depuis que Quiche s'est échappé. Elle a vécu avec les loups. » En touchant de sa main le louveteau, en voici la preuve.
C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter.
C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter.
J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter.
J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter.
C'est dans 9 ans, je m'en irai, la jument de Michaud a passé dans le pré. La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin.
La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin.
L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en rebondira.
L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repentira. chanter. C'est dans 4 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter.
J'entends le loup et le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter.
J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter.
C'est dans 3 ans, je m'en irai. La jument de Michaud a passé dans le pré. La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré. Elle mangeait tout le foin.
La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré.
Mamie fait de la radio sur CFM Rodez, toujours avec les loups. Alfred de Vigny, poète du 19e siècle, décrit le courage et la noblesse du loup devant la mort. Le loup vient et s'assied, les deux jambes dressées par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé. Il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris, sa retraite coupée et tous ses chemins pris. Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante, du chien le plus hardi la gorge pantelante. Et n'a pas desserré ses mâchoires de fer, malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair, et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles. Jusqu'au dernier moment où le chien étranglé, mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé. Le loup le quitte alors et puis il nous regarde, les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde, le clouer au gazon tout baigné dans son sang, nos fusils l'entouraient en sinistre croissant. Il nous regarde encore, ensuite il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche, et sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. Et un peu plus loin, il disait « Si tu peux, fais que ton âme arrive, à force de rester studieuse et pensive, jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté, où naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. Gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler. » Pour terminer cette émission dans un tout autre registre, un policier de Fred Vargas, romancière contemporaine, L'homme à l'envers, où il est question de loups en liberté dans le parc du Mercantour et de l'intervention du commissaire Adamsberg, héros des livres de Fred Vargas. Tout doucement, Adamsberg se rapprocha du poste, l'assiette à la main, sur la pointe des pieds, comme pour ne pas effaroucher le commentateur. Un geste de trop et ce type s'enfuirait de la télé sans finir la formidable histoire de loup qu'il venait de commencer. Il monta le son, se recula. Le commissaire aimait les loups comme on aime ses cauchemars. Toute son enfance pyrénéenne avait été enveloppée des voix des vieux qui racontaient l'épopée des derniers loups de France. Et quand il parcourait la montagne, à la nuit, à 9 ans, quand son père l'envoyait dans les chemins ramasser de l'allume-feu, sans discussion, il croyait voir leurs yeux jaunes le suivre tout au long des sentiers. « Comme des tisons, mon gars, comme des tisons, ça fait, les yeux du loup la nuit. » Et aujourd'hui, quand il revenait là-bas, dans sa montagne, il reprenait les mêmes chemins, à la nuit, comme quoi, c'est désespérant, l'être humain, ça s'attache à ce qu'il y a de pire. Il avait bien entendu dire que quelques loups des Abruzzes avaient repassé les Alpes, il y a de cela quelques années. Une bande d'irresponsables, en quelque sorte. Des ivrognes en goguette. Sympathique incursion, symbolique retour, bienvenue à vous, les 3 bêtes pelées des Abruzzes. Salut, camarades. Depuis, il croyait bien que quelques types les maternaient comme un trésor, bien à l'abri dans les caillasses du Mercantour, et qu'un agneau leur passait sous la dent de temps à autre. Mais c'était la première fois qu'il envoyait les images. Alors quoi? Cette soudaine sauvagerie, c'était eux? Les braves gars des Abruzzes? Le commissaire, tout en mangeant silencieusement, voyait passer sur l'écran une brebis déchiquetée, un sol ensanglanté, le visage convulsé d'un éleveur, la toison souillée d'une brebis, dépecée dans l'herbe d'un pâturage. La caméra fouillait les blessures avec complaisance, et le journaliste aiguisait ses questions, chauffait les brandons de la colère rurale. Mêlés aux prises de vue, des gueules de loups surgissaient sur l'écran, babines relevées, droits sortis d'anciens documentaires, plus balkaniques qu'alpins. On aurait pu croire que tout l'arrière-pays niçois courbait soudain l'échine sous le souffle de la meute sauvage, tandis que de vieux bergers relevaient de fiers visages pour défier la bête, droit dans les yeux. Comme des tisons, mon gars, comme des tisons. Sont partis. À bientôt sur CFM Rodez. Et pour fêter la venue du printemps, la prochaine émission de Mamie fait de la radio aura pour thème les jardins.